Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Vendredi, des productions indépendantes et militantes d'ici et d'ailleurs.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter Les coulisses de la lutte, une série documentaire qui donne la parole à des acteurs et témoins de lutte sociale. C'est une série en 4 épisodes dédiés respectivement aux femmes de chambre de l'hôtel Hayat à Paris, au collectif du 5 novembre sur le droit au logement à Marseille, au camp VMC contre le projet de poubelle nucléaire à Bure, et enfin au collectif Spa Demain la Veille contre la fermeture de la maternité du Blanc. Cette série est réalisée par Nariman Baba Aïssa et produite par l'association Organisez-vous. Le deuxième épisode traite donc du récit de lutte du collectif du 5 novembre qui s'est formé suite à l'effondrement de 2 immeubles à Marseille. Bonne écoute!
À Marseille, le 5 novembre 2018, à 9h du matin, 2 immeubles s'effondrent, au 63 et 65 rue d'Aubagne. 8 personnes décèdent des suites de cette catastrophe. La municipalité évacue dans les mois qui suivent près de 5000 personnes habitant dans des immeubles diagnostiqués en péril. La gestion des évacuations, de l'accueil, du relogement par l'administration est chaotique. S'ensuit alors un combat féroce au cours duquel un collectif d'habitants et d'habitantes de Marseille, le collectif du 5 novembre, se constitue pour faire reconnaître la responsabilité des institutions publiques dans ce drame, mais aussi faire reconnaître leurs droits aux familles des victimes et aux personnes délogées brutalement. Le collectif prend forme dès les premiers jours qui suivent l'événement. Pluriel et protéiforme, il est à l'image de la diversité des personnes qui le composent. Zora, Kevin, Anissa et Martin témoignent de leur vécu au sein de ce collectif. Les marches, les permanences d'accueil, la charte du relogement, les négociations qui n'en finissent pas et nous livrent dans les détails les étapes de leur lutte.
On en a marre d'attendre que vous organisiez la démocratie. En fait, on va le faire nous.
Les coulisses de la lutte est une série de documentaires sonores qui remet la focale sur ce que les individus en lutte vivent au quotidien. Elles nous livrent leur trajectoire de politisation et mobilisation, nous parlent de stratégie, culture et tactique du quotidien. Elles retracent avec nous les étapes de leur lutte dans le souci de garder une mémoire de leurs expériences et de tisser du commun entre tous ces combats. Épisode 2. Marseille, le collectif du 5 novembre, noyé en colère.
C'est un bâtiment qui craint beaucoup. Là, c'est que du contreplaqué qu'ils ont refait, mais en fait, on voyait toute l'ossature en bois. Bah, vous voyez les fissures là entre les bâtiments. On dirait que le bâtiment il va se séparer en deux. Là, vous voyez, on monte les escaliers. On n'est pas super en sécurité. L'immeuble, il est en train de se séparer. T'as toute la cage d'escalier quand on monte qui est tremblante, en fait. Donc, moisie, tremblante, camouflée. Du coup, t'as des morceaux de cailloux comme ça qui tombent régulièrement. Et dans les apparts, c'est encore pire, en fait. Et de toute façon, j'ai essayé de signaler l'immeuble et jamais personne n'est passé, en fait. C'est horrible, mais c'est un immeuble sur deux en centre-ville, hein, voire même plus.
Du coup, effectivement, comme il n'y a jamais d'intervention des institutions sur ces immeubles-là, bah, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui sont les propriétaires. Mais en tout cas, ça fait que les personnes... Par d'elles-mêmes. Ensuite, les propriétaires trouvent d'autres locataires qui ont une certaine fragilité administrative et qui sont contraints à se retrouver dans des immeubles comme ça au lieu d'être à la rue. Voilà. Mais entre la rue et ça, au moins, la rue, ça risque pas de s'effondrer.
Je m'appelle Zora, je suis issue des quartiers nord. Je suis même née dans les bidonvilles, puis Combusserine. Et depuis maintenant une trentaine d'années, je suis plutôt dans le centre-ville de Marseille. Je fais partie des jeunes issus de l'immigration postcoloniale, donc d'origine algérienne. À l'époque, c'était vraiment à la mode pour les jeunes de notre génération d'aller dans les structures qui faisaient l'animation socio-culturelle. Donc j'ai travaillé dans des centres sociaux. Bon, l'animation, c'était bien, mais ça commençait un peu à être limité. Et dans les années 90, il y a une association qui se crée à Marseille, qui l'empile, et qui travaille sur le logement. Voilà, donc après, bon, j'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement, et puis j'ai milité dans certaines associations. Donc une des premières, c'était Mémoire en Marche, puisque dans les années 70-80, il y avait beaucoup de crimes racistes. Donc Mémoire en Marche, donc, c'est la marche de 1983, donc la marche pour l'égalité contre le racisme. J'étais beaucoup sur tout ce qui était le crime raciste dans les quartiers, et donc la marche a, on va dire, visibilisé un peu ce qui s'est passé dans certaines villes de France, comme Paris, Lyon, Marseille. Pour arriver rapidement sur l'histoire du logement, c'est vrai qu'il y a eu les effondrements du 5 novembre, et là, c'est vrai que ça a été un choc, puisque quand même, il y a eu 8 morts. Et là, on s'est retrouvé avec pas mal de gens avec qui on s'est rencontrés lors des manifestations de militants sur toutes les causes antiracistes, sur les conditions de travail, etc., etc. Et on est parti sur une aventure d'un collectif qui a été quand même important et qui, pour moi, renvoie à le mépris envers les classes populaires. Et la première des violences, c'est le logement.
Donc, je m'appelle Kevin, sociologue de métier. Moi, j'ai commencé à militer quand j'étais au lycée. Essentiellement, les mouvements lycéens, entre autres, entre le contrat première embauche en 2006, et militer dans les collectifs antifascistes et sur les questions de soutien sans papier aussi dans le réseau Éducation sans frontières. J'arrivais d'abord à Aix pour mes études, puis rapidement à Marseille. Et quand je suis arrivé à Marseille, en 2009, j'ai rencontré les militants du quartier où est né Zora, puis Combusrine, qui est, je pense, le haut lieu du militantisme marseillais. Et la directrice m'a demandé à accompagner les associations de locataires pour batailler sur le programme En Rue, donc de l'Agence nationale de rénovation urbaine, et négocier à la hausse les droits des habitants, que ce soit sur le projet urbain ou négocier une charte du relogement que les habitants ont écrite eux-mêmes et elles-mêmes avec mon aide technique. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de dire au collectif, venez, on fait comme les copains de la Busserine, on l'a fait il y a 10 ans. Le collectif du 5 novembre est très connu pour sa charte du relogement qu'il a coécrite avec les gens. Souvent, on nous demande de raconter cette histoire en nous demandant comment vous avez fait pour écrire un document de politique publique et l'imposer. Et en fait, le premier truc, c'est déjà, c'est pas nous qui avons eu l'idée. Déjà, c'est les habitants de la Busserine qui l'ont fait 10 ans avant. Et moi, j'ai servi de passeur de cette idée-là dans le collectif. Mais le mérite en revient à Majid et Sid qui ont bossé là-dessus, quoi. Et le 5 novembre, j'habite Noailles depuis 2011, bah, comme quelques autres militants déjà liés au quartier populaire et au logement, on s'est dit qu'il faut faire un truc, quoi. C'était assez clair. Et puis après, il y a eu des centaines de personnes qui nous ont rejoints parce qu'ils étaient juste émus par le drame et qui nous ont permis de créer le collectif, quoi.
Je suis Martin du collectif 5 novembre et là, on est devant le Molotov. Le Molotov, c'est une salle de concert, bar, qui nous a accueillis pendant toute la période suite aux effondrements. Pendant près de 2 ans pour faire nos commissions, nos réunions, nos assemblées. On est en haut de la rue d'Aubagne, en fait au coin entre la rue d'Aubagne et le cours Julien, et donc qui se trouve à environ 200-300 mètres du lieu des effondrements du 5 novembre 2018. Moi j'étais délogé, ça veut dire qu'on m'a évacué de mon logement suite à un arrêté de péril. C'est la raison qui m'a fait rentrer dans le collectif, ouais.
Je suis Anissa du collectif du 5 novembre, je suis délogée aussi. Le Molotov pour moi, pour nous, c'est le lieu où par exemple il y a eu le premier concert de soutien aux personnes victimes des effondrements. Ben, en même temps c'est le bar dansant, on va dire, du Courju avec des musiques à la mode, c'est le lieu où tout le monde aimait bien venir. Voilà, c'est même des personnes qui sont décédées dans l'immeuble qui est tombé, aller s'amuser ici. Donc oui, c'est un lieu qui est important pour tout le monde, enfin qui était important pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui il est fermé.
Le jour de l'effondrement, pas mal de personnes étaient sur place et on était là et un peu démunis en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vu la catastrophe, nous on pensait que l'État allait déclarer quelque chose, la mairie aussi. C'était les institutions qui allaient prendre en charge la situation. À un moment donné, on va à la mairie du 1-7, étant travailleur social, je me suis dit, un peu d'accompagnement, des choses comme ça, c'était mon métier, je pouvais donner un coup de main. Et quand on arrive, deux gros vigiles arrivent devant la porte en me disant, vous ne rentrez pas. Il se trouve que moi, j'habitais à la Plaine, donc on avait eu une bataille sur la Plaine qui a été violente et donc avait une forte pression de la mairie sur le quartier. Et là, on a senti qu'on était sur une question politique. C'est-à-dire que nous étions repérés comme des gens de gauche et qu'on a été mis dehors. Bon, on repart, donc ça c'était le 5. Le 6, je vais à la rue de l'Arc pour amener des vêtements puisque les gens qui sont sortis de l'immeuble, des immeubles, sont sortis, certains en pyjama. Ils n'avaient rien, donc moi j'ai trié tout ce que j'avais à la maison de propre que je pouvais amener. J'arrive à la rue de l'Arc, c'est là qu'il y avait les premiers dons. Et donc, nous, on était toujours étonnés que rien ne s'est mis en place, ni au niveau de l'État, ni de la métropole, ni de la mairie, quoi. Et donc, il y a une copine qui s'appelle Nassera, qui vient me voir et qui me dit « Zora, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et il se trouve qu'en haut de la rue d'Aubagne, il y a une salle de concert qui s'appelle Molotov. Et donc, on a été les voir et on leur a dit « Écoutez, bon, le soir, il y a des concerts, mais dans la journée, est-ce qu'on peut utiliser le lieu pour rencontrer des gens ?» Et à partir de là, on a commencé à recevoir les gens le lundi et le mardi. Tous les gens venaient nous voir, et pour eux, c'était l'institution qui avait mis ça en place. Ils ne comprenaient pas que, donc quand on dit, mais non, on n'est pas la mairie, on n'est pas l'État, on est des bénévoles, les gens ne comprenaient pas. Et donc, à partir de là, s'est créée la permanence des délogés. Là, on a commencé à accompagner les gens directement à la rue Beauvau, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en place par la mairie à la rue Beauvau. Le seul truc, c'est que les gens qui étaient à la rue Beauvau, ça pouvait être le bibliothécaire de tel endroit, ça pouvait être un administratif de tel endroit, etc. Et c'est-à-dire que les personnes n'avaient pas les savoirs pour accueillir les gens. D'autant plus que là, on accueille des gens qui sortaient d'une catastrophe quand même. À partir de là, il y a eu la création de la permanence juridique. Donc là, on se dit qu'il faut aller sur le droit, faire en sorte que les personnes elles rentrent dans leurs droits le plus rapidement possible. Parce que là, si je compte, on a reçu à peu près, sur le Molotov, à peu près 800 familles. C'est pas anodin, quoi. Et donc, petit à petit, il y a eu des gens qui n'ont jamais milité, qui se sont jamais intéressés à la question du mal logement, sont venus nous voir, et on s'est retrouvés presque 80 personnes à faire de l'accueil dans les permanences, mais aussi d'aller rencontrer des familles dans des hôtels. Quand les gens étaient relogés à l'hôtel, personne ne savait où ils étaient. Mais le collectif était tellement important, parce que même s'il y a des gens qui n'étaient pas à l'intérieur, nous donnaient des informations. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillait à la mairie nous a donné la liste des hôtels où étaient les familles délogées.
On va dire les trois premières semaines sont hyper parallèles, en fait, quoi. Personne ne fait la même chose à ce moment-là. Et moi, mon parcours pour en arriver au collectif, c'est qu'on se dit, avec deux autres militants du quartier, qu'on voulait occuper le local du 11 rue de l'Arc, qui est occupé par une association musulmane comorienne. On se disait qu'il fallait en faire un lieu de débat. Et ils nous disaient, nous, on veut bien vous prêter le local si vous voulez faire des trucs, ça nous ferait plaisir, quoi. Un élément de contexte assez important sur Noailles et sur les questions de logement, c'était parce qu'en janvier 2018, donc avant l'effondrement, il y avait une réunion publique organisée par le Grand Projet de Ville, donc l'organisme censé piloter la rénovation urbaine dans le centre-ville, pour présenter un résultat d'étude sur les travaux qu'il y avait à faire à Noailles, que ce soit des questions d'apaisement des espaces publics ou de rénovation de logements, d'installation de centres sociaux, etc. Et la réunion s'était conclue par « on ne fera rien avant », je ne sais plus quelle date il donnait exactement, mais c'était 2021-2022, quoi. Donc en gros, on ne fera rien avant les élections municipales. Et pourtant, ça faisait quand même la troisième ou quatrième fois que dans des rapports officiels émanant de l'institution, il était identifié les mêmes immeubles qui étaient dangereux, y compris les immeubles du 63-65 rue d'Aubagne. Depuis 2014, ces immeubles étaient gravés dans le marbre, identifiés comme dangereux. Et les premiers signalements, c'est le rapport d'expertise judiciaire qui nous l'a rappelé, datent des années 50. Et donc cette réunion en janvier 2018 avait très très mal fini, parce que les gens avaient... C'est déconné, en fait. Le centre social, ça fait 40 ans qu'il est promis à Noailles. L'état des logements, tout le monde les connaît. Encore une fois, vous venez nous dire que non, on va repousser ça encore à l'Empèbre. Du coup, ça faisait partie des raisons qui faisaient que beaucoup de gens avaient envie de passer à recréer de la démocratie de quartier et créer de la mobilisation, quoi. Bah, nous, on sait faire quoi, on sait militer, donc on va militer. Notre idée, ça a été de reprendre ça. En fait, là, il y a besoin, là. Donc on convoque une assemblée de quartier qui se tient le 7, et là on se revoit tous, toutes et tous, tout le monde a commencé dans son coin à faire son truc. Moi, mon truc, c'était de parler avec les gens, de comprendre quels étaient les besoins, de les identifier, de les rédiger, de les mettre en mots, pour pouvoir revendiquer efficacement, quoi. Et donc à cette assemblée, le collectif est créé officiellement et donc il s'appelle Noyé en colère au début. Puis le lendemain, on se dit qu'en fait, il y a une pétition qui s'appelle Collectif 5 novembre. Et donc, du coup, on reprend ce nom finalement. Donc, ça devient Collectif 5 novembre tiré Noyé en colère. Une petite histoire du nom du collectif qui raconte des choses autour, quoi. Et en fait, j'allais dans la rue et j'ai essayé de convaincre toutes les assos du quartier ou tous les réseaux informels de rejoindre le collectif ou de collaborer avec le collectif. Et on disait tous que si on n'était pas coordonnés, on allait faire de la merde, quoi. Puis je passais mon temps à parler aux gens qui étaient en train d'errer. Il y avait des gens qui erraient, soit pour des raisons de deuil, soit pour des raisons d'évacuation. Donc en 2 mois, il y a 2500 personnes qui sont évacuées. C'est gigantesque. Donc voilà, je traînais dans la rue pour prendre le maximum de contacts et faire venir les gens et puis comprendre ce qui se passait et rédiger.
Moi, je suis rentrée dans le collectif à la suite d'une assemblée justement des délogés ici même. Où on avait notamment des personnes en fait qui prenaient la parole en disant qu'il faut monter un collectif, qu'il faut se battre, qu'il faut lutter tous ensemble, qu'il faut rester soudés parce que ils nous attendaient une grande bataille. Donc moi je voyais pas ça du tout comme ça, parce que pour moi c'était évident par exemple de prendre en charge les familles des victimes, c'était évident de prendre en charge le rapatriement des corps, les enterrements, effectivement, enfin quelques jours après, comme 2 ans et demi après, rien n'a été fait. À cette heure-ci par la municipalité de Marseille ou par l'État pour prendre en charge ces personnes-là. Donc c'était à nous, entre guillemets, citoyens de la ville, habitants, en même temps meurtris dans ce drame, de prendre des devants et de transformer cette haine, cette rage qu'on avait pu avoir à ce moment-là en quelque chose de positif, ou en tout cas en quelque chose de concret, ce qui n'était pas du tout réalisé par les institutions, ni à ce moment-là, ni 2 ans et demi plus tard.
Moi, la première fois que je suis venu, en fait, j'étais hébergé dans un hôtel à Joliette. Et au petit déjeuner, le matin, on rencontrait les autres délogés, on avait nos habitudes. Et j'étais venu la première fois avec une dame qui était âgée en situation de handicap et qui avait besoin de faire avancer plus rapidement que les autres sa situation. Du coup, on s'est pointé ici pour avoir un coup de main. En fait, on a essayé plein de choses. Hein. On est allé à la mairie, on est allé dans tous les espaces qui ont été créés par la puissance publique pour essayer de nous proposer des choses, même s'il n'y avait pas grand-chose à nous proposer à l'époque. Et c'est, je pense, ici le premier endroit où on a été accueilli avec une écoute, une parole humaine, en tout cas avec quelque chose d'incarné et à l'échelle humaine. Et, voilà. Du coup, on était venus ici pour demander de l'aide et finalement, on est resté pour essayer de s'entraider mutuellement.
On avait récupéré la liste des gens à la rue de l'Arc qui s'étaient proposés pour venir donner un coup de main. Ceux qui voulaient faire de la communication, on envoyait vers la communication, ceux qui voulaient faire de l'accompagnement, etc. On était majoritairement des femmes, pas mal de travailleurs sociaux. Il y avait des syndicalistes, il y avait des enseignants, donc il y avait quand même des personnes qui étaient quand même issues du mouvement militant. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait des personnes, on va dire relais, qui travaillaient dans des institutions, c'est-à-dire au département, à la région, à la mairie, qui nous donnaient des informations, qui ont réglé des situations, etc. etc. Donc on faisait des équipes pour l'accueil. Les personnes qui avaient un bon revenu, qui venaient nous voir, etc., pour nous, on était juste un point d'appui d'information. Après, ils se débrouillaient et certains continuaient à travailler avec nous, venaient nous voir pour nous soutenir. Et après, il y avait les personnes qui, majoritairement, venaient de pays divers. On a eu pas mal de sans-papiers. Et ces personnes-là, elles avaient besoin d'un appui un peu plus important. Quand on avait affaire à des gens qui déjà vivaient dans des logements pourris, qui avaient des problèmes administratifs, des problèmes de revenus, faire une démarche de revendication, etc., c'était pour eux insurmontable. Et pour nous, c'était de l'éducation populaire, c'est-à-dire nous sommes des personnes qui accompagnons les gens vers l'accès aux droits et surtout l'autonomie. On était là, on allait avec elle, on l'accompagnait. C'est la personne qui était actrice de son discours. Et nous, on était là en soutien.
Il y avait quand même toujours une difficulté à pouvoir intégrer des gens qui sont à l'hôtel, qui sont en galère, qui ont jamais mérité de leur vie, qui n'ont pas de compétences particulières, sociales ou éducatives ou quoi. Et un espace très important, c'était le collage d'affiches. Et ça, c'est un truc du premier soir, du 5 novembre. Des gens, alors des militants, pas des militants, enfin... des profils très différents, quoi, viennent en disant, bon, bah, moi, scotcher des affiches sur des portes, ça, je peux le faire, quoi. Et tout le long du collectif, pendant bien un an et demi, quoi, c'est resté un truc très important. En un texto, en un post Facebook, on avait 20, 30, 40, 50 personnes qui venaient coller des affiches avec nous, quoi. Et c'était une sorte de sas d'intégration. Il y a des gens qui ont passé un an à coller des affiches sans jamais oser venir à une réunion du collectif. Et, mais ça a été un endroit très simple. Les gens buvaient des coups après. Et ils parlaient de ce qui se passait. Ils s'informaient avec les militants les plus actifs du collectif sur où est-ce qu'on était avec la mairie. C'était un moyen de se réunir sans formaliser trop les choses, quoi. Il y a eu plein de petits espaces comme ça parallèles où faire partie du collectif était une chose un peu poreuse parce que le collectif s'était lui-même adapté à comment intégrer les gens.
Alors au début du collectif, c'est un mouvement qui a été hyper spontané. C'est né de la haine, de la rage, de la colère, de la tristesse. Du coup, c'était très compliqué à organiser. Je pense que vu de l'extérieur, puis même vu de l'intérieur, c'est la cohue totale. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont plus un sens de l'organisation développé que d'autres, qui ont essayé de prendre les choses en main. Il y a des commissions qui ont été créées. Après, on a toujours été dans l'urgence, donc ça a toujours été compliqué. On s'est beaucoup fatigué aussi à être sur plusieurs choses en même temps. C'était un rythme effréné. Mais l'organisation, elle était aussi spontanée que les personnes et la manière dont ça a commencé, tout ça. Il n'y a jamais eu personne au-dessus de personne.
Moi, je trouve qu'il y avait un truc un peu compliqué au démarrage, quand j'arrive dans ce truc-là, c'est que on connaît personne ou pas grand monde et en fait, il faut jouer des épaules pour rentrer quand même dans cette histoire, pour que les gens nous fassent confiance. Alors moi, j'arrive en tant que délogé et je me fais entendre dire le premier jour en mode « mais qu'est-ce qu'il fout là, on a déjà trop de bénévoles ». Et je suis là genre « en fait, non, moi je suis dans la galère quand même, ah t'es propriétaire, non je suis pas propriétaire, moi je suis locataire en fait ».
Il y avait plein de trucs qui se faisaient et après c'est vrai que ce qui a rassemblé, c'est l'assemblée des délogés. On avait décidé qu'une fois par mois, on faisait l'assemblée des délogés au Molotov. Et donc, c'était ces moments-là qui sont de rencontres, surtout pour les délogés. Et après, les premières réunions qui ont eu lieu au collectif se faisaient le lundi soir.
On a eu un million de formats différents. Même les toutes premières avant le lundi soir, c'était les samedis. La toute première réunion du collectif, c'est le samedi 10 novembre, juste avant la marche blanche, où on est tellement nombreux, la moitié des gens ne pouvaient pas rentrer dans la salle, quoi. Et du coup, le 17 novembre, on crée un dispositif qui va tenir genre trois samedis, de se séparer en trois salles au Molotov, rue Estelle et 11 rue de l'Arc, trois réunions séparées qu'il faut arriver ensuite à coordonner, quoi. Après, ça commence à écumer déjà. Bon, en fait, il y a des gens que ça fatigue, quoi. On n'a jamais été très inclusif et très intégrateur dans ces réunions. On n'a jamais réussi à pacifier les réunions. Tu mets ça dans une situation, un contexte d'une des plus grandes mobilisations sociales locales de l'histoire de France contemporaine, où tu veux faire démissionner Godin et d'un drame où 8 de tes voisins sont morts et 2000 de tes voisins sont en train de se faire évacuer dans toute la ville. C'est compliqué de gérer une réunion dans ce contexte-là émotionnel, affectif, et le niveau de tension psychique des gens, nous compris. Nous-mêmes, on a été suivis, même collectivement, par les psy bénévoles ensuite. Et donc, on a fait plein de modèles différents. Et donc, la réunion du mercredi soir, à un moment donné, elle est devenue une réunion de coordination des différents groupes, qui était assez cohérent avec ce qu'était le collectif. Ça crée une hiérarchie de pouvoir assez importante, quand même. Mais c'est un moyen de réduire la taille de la réunion radicalement. Et de considérer que oui, le collectif était une archipel qui devait se coordonner, en fait, quoi. On l'a changé parce qu'on se rendait compte que la précédente ne fonctionnait pas, sûrement parce que, d'une part, le collectif évolue et qu'il a besoin de s'organiser différemment, d'autre part, parce qu'on n'a jamais attaqué le vrai problème, qui était un problème de pacification des relations aussi entre les gens. Voilà.
Je pense que le fait d'avoir des réunions qui ont été un peu dures, ça a permis aussi de se dire... Ben, les personnes qui restent, c'est les personnes qui sont là et qui sont là pour une cause. Et pour nous, la cause, c'était il y en a marre de cette mairie qui ne s'occupe pas de tous ses citoyens. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens de seconde zone. Les pauvres, on ne s'en occupe pas. Les précaires, on ne s'en occupe pas. Les sans-papiers, on ne s'en occupe pas. De dire qu'on a été mauvais ou bon, je ne sais pas. On a essayé de faire avec ce qu'on a pu faire.
Même si des fois, ça a créé des tensions, il y a eu quand même pas mal de bienveillance. Je pense du fait de ce drame, en fait, qu'on ait perdu 8 personnes, ça fait que ben, dans la plupart des gens qui militaient, en fait, il n'y avait pas d'autre bataille que d'essayer de se faire entendre et d'essayer de prendre les choses en main vu que les institutions ne le faisaient pas.
Pour nous, et pas pour que nous, quand je dis nous, c'est les Marseillais, il y avait quand même besoin de manifester le soutien et la colère. Parce que quand même, 8 de nos concitoyens sont morts. Donc pour nous, c'était important d'être dans la rue. Et après, il y a eu des manifestations. Et donc, Zineb Redouane a été tuée le jour d'une manifestation et quand même souligné la répression qui a eu lieu. Moi, je pense que toutes ces actions-là, elles ont joué quand même dans la tête des gens. Et ça a joué aussi sur les hommes politiques. Parce que quand on regardait sur les réseaux sociaux que les gens qui condamnaient tel élu, c'est-à-dire que là, on était en train de montrer à tous les Marseillais, et notamment les Marseillais de droite, que la gestion municipale de Gonin, c'était catastrophique. Il faut rappeler quand même qu'on a été couvert par la presse internationale. On a eu, le New York Times, on a eu le journal, je ne me rappelle plus, russe, on a eu le journal allemand, italien, britannique, etc. Donc, ça, je veux dire, il y a eu une couverture sur cet événement-là qui a fait que même les gens qui ne s'intéressaient pas au petit peuple étaient là en se disant, mais quand même, il y a quelque chose. La vague printemps marseillais, on en rigole. Les gens ont voté contre Gaudin. Ce n'est pas le printemps marseillais qui a viré Gaudin, c'est les Marseillais qui ont viré Gaudin.
Puis bon, il y a les mouvements sociaux en même temps. On a des manifs toutes les deux semaines, je crois. Il y a un rythme assez soutenu. Et c'est aussi avoir la sensation qu'en fait, là, on peut faire changer les choses, mais d'une autre manière, en fait, et par le rapport de force. Et là, on le sent. On le sent directement à ce moment-là, je veux dire, au mois de janvier, quand j'arrive. Il y a eu l'effondrement et en fait il y a eu une marche blanche et puis en fait il y a eu une marche de la colère et ainsi de suite. Et on était à Marseille, c'était une espèce de ras-le-bol contre la municipalité, contre la métropole et contre en fait la puissance publique qui était en place. Et je pense que cet effondrement, ça a été la goutte d'eau, quoi. Et c'était aussi juste après les événements de la Plaine. Il y avait eu un gros mouvement social aussi sur la transformation du quartier de la Plaine là, qui est pas très loin d'ici. Et en fait, tout ça est interconnecté, c'est quand même systématiquement les mêmes personnes qui subissent les mêmes politiques et du coup tout ça s'entrechoque et s'entremêle et donc c'est des luttes qui convergent, quoi.
C'est quand même une crise dans une ville, ça me fait 1500 personnes, c'est un village qu'on évacue. Et que l'État n'ait pas pu se substituer à la mairie en disant « effectivement, ce qui s'est passé grave, on va déclarer quelque chose », ça n'a pas été fait. Donc je pense que politiquement, quelque part, c'était pour eux un phénomène comme un autre. Et puis en plus, ça se passait dans des endroits où il n'y avait que des pauvres. Et c'est à partir du moment où on a su qui étaient les morts et qui étaient les délogés, que là, la mairie, elle a commencé à se dire « Ah, en fait, il n'y a pas que des pauvres. » Mais ça n'a pas changé quand même leur positionnement. Et c'est ça que moi, je reproche à toutes les institutions passant de la mairie jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi rien n'a été mis en place pour régler cette situation ?
À partir de décembre, à la mairie et à l'État, à Gaudin lui-même, la seule fois où on le voit, le fait de discuter d'une charte du relogement, faire en sorte que la loi devienne opérationnelle, que les éléments de droit, ça ne veut pas dire des éléments de politique publique, c'est deux choses différentes. Donc nous, on a réfléchi sur chaque point avec d'autres assos qui nous ont aidés en identifiant les besoins qu'en assemblée délogée, les gens disaient « bon bah, là-dessus, ça bug, ça marche pas ». Et ben du coup, on disait « bon, ok, on va le mettre dans la charte du relogement ». Et donc voilà, c'était remettre en politique publique tout ça, s'assurer que tout le monde était serait relogé à la fin, appliquer la loi et l'améliorer, notamment sur deux populations qui n'étaient pas prises en charge, qui étaient les personnes sans papier, ou les occupants de bonne foi, pas forcément sans papier d'ailleurs, ceux qui n'ont pas un bail officiel écrit, en gros, quoi, qui sont souvent ceux qui sont en fait sous le joug des marchands de sommeil, et les propriétaires occupants, pour une raison totalement différente, mais qui ne sont pas pris en charge. Donc ça, c'était deux gros socles de bataille. Puis se placer dans une logique aussi où on empêchait que tout ça ne serve à une gentrification. Il y a une des grandes batailles, ça a été le droit au retour, qui est un droit de principe pour l'instant, il n'est pas encore opérationnel, mais c'est l'idée de dire tous les gens évacués, il faut s'assurer qu'ils puissent revenir soit dans leurs immeubles une fois rénovés, soit dans les mêmes quartiers, dans des bonnes conditions, et faire en sorte qu'il n'y ait pas des promoteurs qui servent de tout ça. Et donc en fait, on bosse là-dessus jusqu'à la signature en juillet. On bosse là-dessus, on négocie, on passe des dizaines d'heures par semaine avec la mairie et l'État pour négocier. Et on fait des actions, des rassemblements devant la mairie ou devant la préfecture. On harcèle la mairie de la vérité. Jusqu'à l'automne 2019, en gros, jusqu'à un peu après les 1 an, je pense. n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article de presse qui parle de tout ça. Non-stop, presse locale, presse nationale. On écrit aussi bien des tribunes que ce qu'on fait des happenings. Parce que les médias eux-mêmes, les médias locaux ont été très très importants. Eux ont même créé un consortium de journalistes, donc mêlant presse locale et correspondants locaux de la presse nationale, pour bosser ensemble, échanger des informations, coordonner leurs enquêtes. Des éléments qui font partie maintenant des pièces judiciaires du procès de l'effondrement en lui-même. Hein. Il y a des trucs qui ont été sortis par les médias locaux. Donc, constamment, tout est organisé pour ça. Tout le temps. Ils sont sous une pression constante, en fait. Et le gros truc important, c'est le fait que la création de l'Assemblée des délogés permet à ce qu'il y ait une voix propre des personnes. On imposait à toutes les réunions, y compris avec les ministères, eux arrivent avec des gens qui passent 50 heures par semaine à être ultra payés, qui ont fait l'ENA pour t'écraser. Et toi, ta seule force, c'est le collectif. Et nous, le fait d'avoir créé l'Assemblée des délogés, ça nous permettait de dire « oui, très bien, donc il y a deux membres du collectif, donc en général plutôt des militants, ou concernés ou pas concernés par le délogement, et toujours deux personnes évacuées ». Et donc on faisait exister cette réalité, ça les harcelait.
On a participé longtemps aux négociations pour la charte du relogement. Je me souviens de la première réunion à laquelle j'ai assisté, j'avais la bouche sèche, la langue qui tremblait, les mains qui ne tenaient pas, et je transpirais toutes mes gouttes. Et il y a un ancien qui m'a dit « mais en fait, t'inquiète pas, tu connais déjà beaucoup plus que les gens qui sont en face de toi, et j'y croyais pas trop parce qu'ils parlent mieux. » Et en fait, effectivement, quand on écoute le discours, il s'affaiblit très vite, alors que nous, nos expériences, elles étaient incontestables, et en fait, systématiquement, on avait des arguments qui étaient plus solides que toutes leurs pensées qui sortaient de leur bureau ou de leur cabinet.
Les premières réunions institutionnelles qui étaient hyper violentes, où en fait, nous, on essayait de négocier un endroit pour les personnes évacuées, et aussi la prise en charge des personnes qui étaient décédées. Bah voilà, on peut rien faire, on peut pas débloquer de l'argent, la ville de Marseille ne peut pas débloquer, je sais pas moi, 10 000 euros pour prendre en charge des 8 rapatriements, c'est pas normal. On peut pas couper à ses responsabilités comme ça. Donc en face, ben, on avait des gens, des habitants simples, hein, et qui demandaient ça et qui, des fois, à bout de nerfs, pleurait ou criait, en tout cas. Voilà. Et le fait de répéter tout le temps les mêmes choses qui sont pour nous, enfin pour tout le monde en fait, évidentes et logiques, face à des gens qui font semblant de ne pas comprendre, justement.
Les communications avec les élus, elles se sont faites beaucoup sur les avril, mai, juin, dans la dernière ligne droite de négociation de la charte, où l'équipe de négo, on passait quand même à la fin, deux fois 5 à 7 heures par semaine, le soir. Les techniciens, la préfète, les adjoints étaient avec nous jusqu'à minuit, quoi. Et puis on les lâchait pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de sortir tant qu'on n'avait pas fini l'ordre du jour. C'était mort, quoi. Après la signature de la charte du relogement en juillet 2019, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre, c'est de faire appliquer la charte. Donc la faire appliquer individuellement. On faisait en gros la même chose qu'avant, mais avec un document cadre qui était censé être consensuel, quoi. Alors, on a toujours été assez mal à l'aise dans l'accompagnement individuel des personnes parce qu'on ressemblait trop à des travailleurs sociaux à faire ça. On essayait quand même de privilégier des accompagnements collectifs, surtout par immeuble, où notre mission consistait à soutenir des collectifs d'immeubles, d'habitants. Donc, je sais pas, il y a dû y avoir 7-8 immeubles où il y a eu des grosses batailles particulières, où certaines ont obtenu des grosses victoires d'ailleurs, et on fait avancer les droits des autres aussi. Je pense à la rue Curiole, qui sont lancés dans une bataille pour obtenir les travaux d'office, c'est-à-dire que la mairie fasse les travaux à la place du propriétaire qui ne les fait pas. Mais ils ont bataillé, on les a aidés, et ils ont prouvé que c'était possible. Des collectifs de sans-papiers aussi, délogés, qui ont obtenu aussi des victoires. Et après, le post-élection, où là, depuis les élections, c'est un peu une phase d'attente. On attend de voir ce que la mairie veut faire, en gros, et on se rend compte qu'elle fait plutôt de la merde. Et donc là, il y a peut-être une quatrième phase du collectif qui va s'ouvrir à partir de ça. Il y a les conséquences sociales de la charte du relogement, ce qui est appliqué, pas appliqué, donc c'est mitigé, on va dire. Mais il y a les conséquences politiques. Pour donner un exemple, les associations de locataires d'Herbel, donc qui est une cité du 11e arrondissement, dans le sud-est de la ville. Il y a eu pendant des années des problèmes de légionellose, notamment, qui ont conduit à la mort d'un habitant. Et ce sur quoi il y a eu une mobilisation des habitants qui s'est construite il y a 4-5 ans. Un drame du mal logement, par exemple, dont on n'entend pas parler. Et cette semaine, ils ont rencontré les techniciens de la métropole pour une première réunion de concertation en vue de la rénovation du quartier. Les assos ont écrit en amont une charte du relogement. Et en fait, quand ils se sont posés devant la métropole, les techniciens avaient préparé des petits ateliers post-it avec plein de thématiques pompeuses, les trucs qui tournent autour du pot pendant trois plombes pour aboutir à rien. Les membres des associations de locataires ont interrompu direct le truc en disant « Non, en fait, nous, on vous a écrit une charte du relogement il y a un mois et demi, vous n'avez toujours pas répondu, donc on va parler de ça. » Et cette posture-là et la posture incroyable que le collectif 5 novembre a pu avoir, que plein de combats marseillais ont pu avoir, de dire « En fait, On en a marre d'attendre que vous organisiez la démocratie. En fait, on va le faire nous. On va prendre le leadership de cette activité-là de négociation. Quoi. C'est exactement ce qu'elles ont fait, cette réunion. Et un de leurs arguments, il y a un collectif à Marseille qui a déjà fait ça, le collectif 5 novembre, ils ont fait signer à un préfet, à un ministère, le fait que les sans-papiers allaient être relogés. Maintenant, on sait que c'est possible de vous faire plier, donc ne nous la faites pas à l'envers sur « non, c'est pas possible, c'est pas légal, etc. » Il y a un précédent.
Ça, ils s'y attendaient pas. Et au début, ils ont voulu nous ignorer. Mais force était de constater que le texte était plutôt bien construit et plutôt bien adapté à la situation. En tout cas, beaucoup mieux adapté que ce qu'ils pouvaient nous proposer dans les mois, voire les années à venir. Voilà, donc ça a été toute une lutte de faire accepter cette charte. Mais en tant que délogé, c'était hyper important pour... même si on n'allait pas pouvoir profiter de tous les articles, en fait, voir le bout du tunnel et de se dire, bon bah voilà, en fait, il y a quelque chose maintenant, aujourd'hui, il y a un document qui nous protège, il y a un document qui résume nos droits en cas de délogement, ce qui est la situation de milliers de personnes à Marseille.
On a été arraché un peu de dignité auprès de la puissance publique. Moi, ce que j'en retiens, en fait, ce que ça m'a fait découvrir ce truc-là. Concrètement, j'avais des idées en arrière-plan, mais ce que j'ai découvert frontalement et violemment, c'est que ceux qui nous gouvernent n'ont pas envie de nous laisser cette place-là. Il a fallu aller l'arracher, ils n'ont pas envie de nous la laisser. Et tu vois, on est même pas 2 ans après la première signature de cette charte, nouvelle municipalité à Marseille, qui a fait sa campagne sur la lutte contre l'habitat indigne, qui a fait sa campagne sur la charte, le collectif et compagnie, ils se sont pas gardés d'aller venir récupérer toutes nos luttes. Mais pour autant, la première chose qu'ils font, c'est de renégocier cette charte et de la renégocier à la baisse. Qu'est-ce que ça nous montre, ce truc-là, tu vois? Genre, moi, ce que ça me montre, c'est que les gouvernants n'ont toujours pas envie de nous laisser une place dans la gouvernance.
On peut pas dire victoire parce que tout n'est pas gagné. C'est pas parce que Gaudin est parti qu'aujourd'hui, on peut dire que les discussions, elles sont plus cool. Le problème, c'est que cette mairie-là, elle récupère quand même un gros dossier marseillais. Donc, et le délogement est un gros dossier pour eux, et ben ils vont essayer quand même de faire des choses dans le cadre de la loi. Est-ce qu'après ils vont être un peu plus souples sur des questions sur lesquelles nous on va les interpeller? Je ne sais pas. Là, on est en train de négocier la deuxième charte.
Là, ils nous ont envoyé une nouvelle version de la charte qu'ils proposent, et on l'a fait à comparaison avec la première version de la charte. Nous, notre bataille, c'est de faire appliquer la première charte, de l'améliorer et de la maintenir à minima. Là, sur énormément de points, il y a vraiment une 10-15 de points cruciaux sur lesquels ils reviennent en arrière, soit sur des éléments acquis par la première charte, voire ils vont en dessous de la loi. Et sur la question des occupants de bonne foi, c'est-à-dire les personnes qui ont pas de bail écrit, en gros, quoi, pour le dire simplement, là, ils demandent des papiers pour prouver que les gens sont occupants, des papiers que, ni dans la loi, ni dans la pratique habituelle sur ce genre de situation, n'ont jamais été demandés. Parce qu'on avait obtenu que le témoignage des personnes était suffisant. Donc, qui va se retrouver dans la merde avec ça? Ceux qui ont des marchands de sommeil, les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes qui maîtrisent mal le français, dont on va tout de suite suspecter le fait qu'elles sont en train d'arnaquer un droit, quoi. Et donc, ça, c'est extrêmement grave. Donc, là-dessus, moi, je trouve que la mairie, sous couvert de vouloir respecter les normes, etc., parce qu'on y a un nouvel adjoint au logement qui est un mec ultra technocrate et qui se positionne comme bailleur. C'est un ancien des offices HLM, c'est un ancien président d'office HLM. Il se positionne comme ça, comme propriétaire, en fait, quoi. Et il se positionne du point de vue de ce qu'il connaît, c'est-à-dire le droit des propriétaires, en fait, quoi. Et c'est catastrophique. Il y a des trucs sur lesquels, pour moi, c'est pas juste... on va voir. C'est là, pour l'instant, ils sont en train de revenir en arrière sur des trucs qui sont gravissimes. Et en fait, leur discours, c'est le droit avant tout, alors que nous, on disait le droit à minima. C'est pas la même chose, en fait, quoi. Et donc, en fait, ils veulent réduire la charte à ce qui est possible en termes de droit.
Il se trouve que maintenant, et c'est là où les réunions ont été un peu rudes, c'est que maintenant, il y a une juriste. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose, elle revient sur le droit, sur l'environnement le plus proche de chez eux pour être relogé. Ça, c'est, on dit que ce n'est pas du juridique, donc on veut y revenir dessus. Et que quelque part, on ne devrait plus discuter avec les techniciens, parce que je pense qu'ils ont des directives. Et les directives, c'est on a un problème financier, c'est un gouffre financier, on veut que les gens réintègrent le logement. L'énergie du collectif, après, là c'est pareil, on est sur des avis différents. Le collectif du 5 novembre ne peut pas être celui qui existe aujourd'hui, pour des raisons qui sont logiques, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les situations normalement se règlent, puis les gens sont sortis de l'émotion, donc il y avait moins de monde. C'est vrai que le Covid aussi a changé les choses. Aussi se dire que, puisque nous n'étions pas salariés, on était dans l'action, il y avait besoin de ce moment-là, de donner son temps, etc. etc. Et puis à un moment donné, c'est de dire, il y a les institutions qui doivent faire leur travail et nous, on peut être là comme, on va dire, surveillants, alerteurs, pour les interpeller s'il y a besoin. Mais on ne peut pas être ce qu'on a été avant. Et pour moi, c'est une logique.
On s'est toujours dit, on se l'a répété assez régulièrement, sur le fait que le collectif n'avait pas forcément vocation à exister à vitam aeternam. Mais c'était juste un moyen de se rappeler qu'en fait, on n'avait pas de contraintes et le jour où on voulait arrêter, qu'il fallait arrêter. Après, il y a d'autres copains qui, eux, considèrent qu'on doit exister jusqu'au jour du procès de l'effondrement, par exemple, qui pensent que la fin du collectif doit être à ce moment-là, dans 10 ans, quoi. Moi, je ne considère pas ça. Je pense qu'on sera toujours là pour les familles et que les contacts noués maintenant sont des contacts amicaux et qu'on sera là pour les soutenir. On est capable de réactiver les réseaux militants, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, ça ne me dérange pas d'imaginer la fin du collectif. Parce que le collectif, c'est un collectif qui a été là pour répondre à une crise humanitaire, politique, dans un contexte particulier. Pendant longtemps, j'ai pensé que tant que la crise au niveau social était là, il fallait continuer à exister d'une certaine manière. Voilà, le collectif, il existe jusqu'à ce que la vague d'évacuation se tarisse, quoi, en gros, quoi. Je suis pas totalement sûr de ça encore. Moi, mon envie pour le collectif, c'est qu'on transmette. Et qu'on transmette en termes d'expérience stratégique, et thématique logement aussi plus précisément, je trouve ça hyper riche. Par exemple, on est allé dans la Valle de la Roya pour discuter de stratégie de mobilisation locale avec les habitants qui ont vécu la tempête Alex. Ça a grave motivé les gens, nous ça nous a grave motivé aussi, c'était trop bien. Transmettre à d'autres collectifs à Marseille, et certains d'entre nous continueront de toute façon à le faire, ne serait-ce que parce qu'il y a des relations interpersonnelles, à accompagner des gens dans la défense des droits en faisant appliquer la charte du relogement. Donc il y a d'autres gens qui portent ce qu'on a fait aussi et qui le font à leur sauce, quoi. Et après, l'énergie du collectif, on est épuisé, je pense. Au bout de 2 ans et demi non-stop, et c'est légitime en fait d'être épuisé. Puis les vies ont déjà, des uns et des autres ont changé. Et voilà, quoi. Moi, je pense que ça a quand même changé radicalement ma vie, je pense. Hein. À chaque fois, je suis obligé de raconter le 5 novembre dans mon histoire personnelle. Enfin, c'est-à-dire, c'est bizarre de se raconter à travers un drame, quand même, quoi. Mais il y a des copains et copines qui sont encore en train de travailler sur leur trauma personnel, sur l'effondrement, quoi. Donc c'est pas évident. Et après, là où ça a changé ma vie aussi, c'est que moi, à ce moment-là, comme pas mal de membres piliers du collectif, on était pour beaucoup au chômage ou dans des situations d'emploi un petit peu souples, on va dire, quoi, qui nous ont permis de mettre beaucoup de temps à tout ça. Enfin, ça a fait bifurquer ma carrière. Et aussi parce que j'ai appris des nouvelles choses que maintenant je remobilise dans mon travail aussi, quoi. Ça fait quand même plus cher qu'une vie, quoi.
Je trouve qu'on a été quand même bon dans la montée en compétences mutuelles. Et en fait, t'as des gens qui venaient de plein de métiers différents, à la fois des métiers techniques ou des métiers intellectuels. Et en fait, on a réussi à s'enrichir. Et tout le monde, à tous les niveaux, quoi. À la fois dans les trucs intergénérationnels de comment on utilise WhatsApp ou Signal pour pouvoir communiquer plus facilement. Et à la fois des trucs très techno en mode ça veut dire quoi un PLU, ça veut dire quoi un arrêt de péril aussi. Je pense, et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que la place de l'expertise par l'expérience était fondamentale dans cette histoire. Du coup, toute personne qui rentrait avec quelque chose à apprendre aux autres, ne serait-ce que sur son propre parcours dans cette galère.
C'est quand même un des collectifs où il y a eu autant de différences au niveau intergénérationnel, au niveau de classe sociale, au niveau de vécu. Et ça, c'est vrai que ça a été quand même une richesse. Il y a des gens, par exemple, que je n'aurais jamais rencontrés dans le collectif. Et c'est cette richesse-là, moi, que je trouve différente de tous les collectifs que j'ai connus. Là, dans ce collectif-là, on était vraiment sur une cause qui était commune. D'un coup, on s'est rendu compte que le mal-logement, ça ne concerne pas qu'une certaine classe, mais que ça peut concerner tout un chacun. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres collectifs comme ça.
Donc là, on vient de passer devant le lieu d'effondrement, la place du 5 novembre. j'ai pas envie de parler des politiques à ce moment-là, mais de la mère de Julien qui est venue plusieurs fois à Marseille, mais de la mère et le père de Julien qui sont venus chargés de leur deuil, de leurs questions, de leur colère, et qui ont toujours porté un discours très fédérateur. Et elle était tout le temps dans une posture de rassemblez-vous, continuez à lutter, c'est nécessaire, on a besoin de ça, ça nous fait du bien. Et en même temps, nous, à chaque fois qu'on la voyait, elle était ressourçante, quoi. Voilà, la mère, les amis de Julien. Après, il y a tous les autres aussi. La place juste derrière, elle a été renommée. La place du 5 novembre. Je pense que c'est un des plus bels événements que j'ai vu dans cette histoire. Bah là, on est sur une place, un triangle qui croise. Donc il y a la rue d'Aubagne, il y a deux rues qui montent, une rue qui descend. Elle s'appelait la place Omer. Et pendant une semaine, cette place était bloquée à la circulation. Les habitants avaient fait des chicanes à chaque entrée pour empêcher les voitures de circuler. À la fin de cette chose-là, ils expliquaient à Omer pourquoi il allait perdre son nom et pourquoi la place allait être rebaptisée. Et les habitants ont collé des noms de rue avec place du 5 novembre. Et pour l'anecdote, c'est passé en conseil municipal il n'y a pas longtemps, donc la place est bel et bien renommée place du 5 novembre. Je trouve que c'était le plus bel événement dans le sens où c'était autre chose. On était dans un autre registre que la lutte effrénée dans laquelle on était depuis le début. Là, c'était autre chose et en fait cet espace nous appartenait entièrement. Je trouve qu'il y avait des réminiscences de la commune, quoi. Genre un truc de on était chez nous et les flics n'osaient même plus rentrer, les politiques n'osaient même plus rentrer. On était chez nous et ça appartenait aux Marseillais. Et je trouve que c'était beau.
Les coulisses de la lutte est une série documentaire sonore produite par l'association Organisez-vous. L'épisode que vous venez d'entendre a été réalisé par Nariman Babaïssa. Merci à Laurent, Chloé, Jean-Michel et Alix qui ont rendu la réalisation de cet épisode possible. Merci à Zora, Kevin, Anissa et Martin pour leur confiance, leur temps et leurs témoignages. Cet épisode est dédié à la mémoire de Simona, Thias, Taher, Shérif, Fabien, Ouloumé, Marie-Emmanuel, Julien et Zineb.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'entendre Les coulisses de la lutte, une série documentaire en 4 épisodes. Lundi prochain, à 18h toujours, vous pourrez retrouver le numéro 3 de la série, intitulé Campement à haute activité, retour sur le camp VMC, Vladimir Martinenko, contre le projet de poubelle nucléaire à Bulle. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée!